Alors, cet après-midi, dans le temps qui nous reste, je ne vais pas, si j'ose dire, vous bassiner avec des auteurs dominicains, mais simplement de rappeler au tout début que, évidemment, la thématique de la croix, du mystère de la croix, traverse tous les siècles de l'ordre dominicain, ces 8 siècles. Depuis Saint-Dominique, que Frangelico représente au pied de la croix, et ce thème et cette réalité théologique de la croix, on la trouve tous les siècles, avec des figures comme, par exemple, Savonarole. Je ne vous ai pas parlé de Savonarole, j'aime beaucoup Savonarole, même s'il est haï dans certains milieux, parce qu'il a eu une destinée quand même, il a été brûlé avec deux de ses frères à Florence, et ses cendres ont été jetées dans l'Arve. Mais il a un ouvrage très important dans l'histoire de la spiritualité occidentale qui s'appelle « Le triomphe de la croix ». Catherine de Ricci, au XVe siècle, une mystique dominicaine, qui a eu aussi des visions et qui a vécu beaucoup attachée au mystère de la croix. Et ensuite, en traversant les siècles un peu plus vite, au XVIIe siècle, à Paris, le père Alexandre Pigny, avec un livre qui s'appelle La Croix de Jésus. La Croix de Jésus. Donc, dans cette langue ample, riche, savoureuse, la langue française au XVIIe siècle, et à l'exposition que nous avons faite, qui s'est terminée hier à la mairie du 5e, parmi les ouvrages que nous avons exposés, provenant de la bibliothèque du Solchoir, il y avait le triomphe, la croix de Jésus du père Alexandre Pigny, donc un mystique dominicain du XVIIe siècle, qui vivait dans notre couvent où se trouve aujourd'hui l'église Saint-Thomas d'Aquin, la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Donc, Saint-Dominique, que Frangelico représente, y compris en montrant la fécondité de la croix et le sang qui s'écoule du côté du Christ, dans la tradition dominicaine, est véritablement le livre sur lequel Saint-Dominique se penche, dans une sorte de tension et d'intercession. Mais, évidemment, cette question est surtout développée par Paul, par saint Paul, et c'est plutôt dans les écritures pauliniennes auxquelles je voulais m'attacher dans ce temps, que cet après-midi. Paul parle du mystère de la croix, et ce mystère est central. Et c'est dans sa rencontre avec celui qu'il persécutait, sur le chemin de Damas, qu'il lui a été donné de comprendre, et ce serait intéressant de, par exemple, d'étudier, et cela a été fait en partie, étudier les représentations de saint Paul tombant de son cheval. Enfin, on ne nous parle pas qu'il était sur un cheval, mais en général, la thématique picturale représente saint Paul tombant du cheval. Et il y a des tableaux qui sont une fresque théologique représentant Paul tombant par terre, et une terre agreste, aride, là où il tombe, et ensuite autour de lui une terre féconde, une terre fleurie, un peu comme dans les tableaux de Frangelico. Lorsque la terre est fleurie, verdoyante, c'est toujours une réalité théologique qui s'y exprime. Vous regarderez, c'est pas pour le décor, c'est la fécondité du Christ dans sa mort et résurrection qui est exprimée quand il peint et quand il exprime une nature verdoyante, comme par exemple là, la fuite en Égypte et où est l'enfant, ou ici. Et ici, derrière moi, dès qu'on soulève le linceul où est le Christ, la nature est déjà fleurie. comme si le mystère de la résurrection est tellement rayonnant que la nature ne peut pas rester indemne de ce mystère. Là, voilà, on voit le tombeau qui est nu, et tout autour, la nature, j'allais dire, jaillit comme au printemps. Et voilà, la nature ne peut pas rester indifférente à ce qui se passe dans la vie du Christ. Et donc, c'est dans cette rencontre avec celui qu'il persécutait qu'il lui a été donné de comprendre que Jésus, qu'il croyait maudit de Dieu, puisque Paul était très marqué par sa tradition pharisienne, donc que ce Christ qu'il persécutait était un fils parfaitement obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur la croix, élevé au rang du Seigneur de l'univers, comme le dit l'Épître aux Philippiens au chapitre 2. Ainsi, sur le chemin de Damas, Dieu a en effet ôté le voile qui empêchait Paul de voir la gloire sur le visage du Christ Jésus crucifié. L'Église a représenté cela. Alors on peut dire que c'est un peu triste et qu'il y a un relent antisémite dans la cathédrale de Strasbourg avec l'église triomphante et la synagogue représentée par une femme qui est voilée. Bon, en tout cas, Paul découvre donc le visage du Christ. Et dans ce dévoilement du Fils, comme en parle l'Épître aux Galates au chapitre 1, il aperçut le sens de la croix et la gratitude radicale de l'initiative de Dieu à son égard. Parce qu'il lui a été révélé que la passion est l'expression parfaite de l'amour du Christ pour son Père et pour l'humanité, en même temps que la révélation de la nature paradoxale, car dans le cadre théologique juif dans lequel il était, Paul ne pouvait pas comprendre ça. Là, il va le comprendre. Donc, il va comprendre. Et il décide, à partir de ce moment-là, de ne chercher que Jésus crucifié pour être crucifié avec lui. Ainsi, dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2. Avec le Christ, je suis un crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. En conséquence, s'il sera dominé par l'annonce de l'Évangile qu'il a reçu, comme il le dit dans la première Épître aux Corinthiens au chapitre 15, le ministère de Paul sera surtout déterminé par la révélation de la nature déconcertante de la puissance de Dieu qui se donne à voir dans la faiblesse de Jésus-Christ crucifié. Alors que la première tradition chrétienne évoquait la mort de Jésus, mais sans nécessairement s'attarder sur la nature de cette mort, l'insistance sur la mort de Jésus par crucifixion va être un trait caractéristique de la prédication de Paul. Ainsi, particulièrement dans la première épître aux Corinthiens, dans les années 53-54, Paul, pour la première fois, va mettre en œuvre une véritable théologie de la croix qui ne relève pas d'une construction intellectuelle, mais il va expliciter comment la croix, littéralement, a parlé dans son existence lorsque Dieu s'est révélé à lui sous la figure d'un crucifié. Alors, Paul commence par parler de la croix comme une folie. Le livre de la croix se révèle comme une folie, une première réalité. Il n'est pas inutile de rappeler à ce propos que la communauté de Corinthe était confrontée à de multiples problèmes, comme beaucoup de paroisses, si j'ose dire. Mais ce qui inquiétait le plus l'apôtre Paul, c'était l'existence de tensions identitaires au sein de la communauté. Je pense que ce n'est pas votre cas. Chaque groupe en présence se référait, semble-t-il, à une figure fondatrice qui donnait une orientation particulière à l'expression de la foi. Moi, je parle de Paul, un autre parle d'Apollos, un autre parle de Céphas. Corinthe, au temps de Saint Paul, disent les historiens, va être une ville quand même très importante, d'un demi-million d'habitants, complètement bigarrée par ce milieu lié à la zone portuaire, à la prostitution, tant et si bien que dans l'Antiquité, quand on parlait d'une vie de débauche, on disait vivre à la corinthienne. Les gens savaient ce que ça voulait dire. Vivre à la corinthienne, c'était vraiment... Voilà. Et donc, devant ces divisions et devant ce climat, conséquence d'une trop grande importance accordée à la parole, à la connaissance ou à certaines manifestations de l'esprit, comme dans la première aux Corinthiens, chapitre 12 à 14, qu'est-ce que va faire Paul ? Littéralement, il va planter une croix au milieu de la communauté déchirée de Corinthe, dans 1 Corinthiens 1, verset 13, il va poser cette question. Le Christ est-il divisé ? Est-ce au nom de Paul que vous avez été crucifié ? Donc, face à cette division, Paul va opposer un événement scandaleux qui n'offre à cette époque aucune possibilité de référence identitaire, puisque la crucifixion était le supplice le plus cruel, le plus infamant qui soit, celui qu'on réservait aux criminels et aux esclaves. Après avoir rappelé que l'unité de la communauté chrétienne n'a pas d'autre origine et fondement que la croix du Christ, l'apôtre consacre ensuite un long développement à la parole de la croix, qui proclame sur Dieu le contraire de ce que les hommes conçoivent et comprennent habituellement de lui. Ainsi, toujours dans la première aux Corinthiens, chapitre 1er, les versets 18 à 25. Il dit « Le langage de la croix, en effet, est folie pour ceux qui se perdent. Mais pour ceux qui sont en train d'être sauvés, pour nous, il est puissance de Dieu. Les Juifs demandent des miracles, et les Grecs, encore les Grecs, recherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs, il est Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Voilà qui est clair pour Paul. La croix est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. La croix est donc un scandale, une pierre d'achoppement, parce que l'aspect sous lequel le Messie se présente est en totale contradiction avec les représentations et avec l'attente des Juifs, les représentations qu'ils se faisaient du Messie. La croix semble même être la preuve, par excellence, que celui qui est pendu ne peut être le Messie. La croix est une folie aussi pour les Grecs, car celui-là ne peut prétendre être Dieu, même au sens mythologique, quelqu'un qui subit une telle mort infrahumaine réservée aux esclaves. Donc, en quelque sorte, Paul balise le chemin pour les uns comme pour les autres, pour les Juifs comme pour les Grecs. L'événement de la croix vient ainsi heurter de plein fouet les deux cultures, les cultures grecques et juives. C'est un défi pour la raison, puisque la croix proclame la puissance de Dieu, là où la sagesse des hommes ne perçoit que l'impuissance et l'échec. C'est un non-sens apparent, une aberration, qui rejoint l'humanité dans sa quête de vérité, en faisant éclater les limites de la sagesse et de la piété, surtout lorsqu'à travers elle, les hommes prétendent identifier Dieu et par là se sauver eux-mêmes ou se poser comme leur propre fondement. Un auteur comme Jacques Maritain écrira « La croix scandalise tout ce que mesure les choses divines à la mesure du visible et de l'humain. À la lumière de la résurrection, la mort de Jésus sur la croix, comprise par les hommes comme signe de faiblesse et d'anéantissement, va donc mettre en échec toutes les représentations divines que l'homme peut se faire en même temps qu'elle donne accès, et c'est là le développement de Paul, c'est qu'elle donne accès à une nouvelle connaissance de Dieu, et il va le développer dans la première aux Corinthiens et également dans la deuxième aux Corinthiens. Le Dieu que juifs et grecs croyaient connaître et dominer est un Dieu qui se manifeste au cœur de l'humanité, là où le plus horrible, le plus affreux, revêt par la mort du Fils, comprise comme un don, comme une noble activité, c'est-à-dire la forme la plus extrême de l'amour, avec les conséquences qui vont en découler pour la vie de l'Église et pour l'existence de chacun. Un autre aspect, Paul développe sa pensée en disant aussi, en parlant de l'obéissance. Le Christ, il va méditer, il va découvrir que le Christ s'est fait obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Ainsi, il va essayer d'illustrer les conséquences opérées par cette révélation qu'est la croix pour la vie de l'Église. Dans cette pastorale, dans cet essai auprès des chrétiens de Corinthe, car il voit, il contemple les origines sociales, cette société très bigarrée, ou leurs histoires personnelles. Parfois, on peut se faire des projections dans l'Église, dans nos communautés chrétiennes, et on voit telle ou telle personne, ah oui, il pourrait faire ça et ça. Bon, parfois ça marche, mais parfois ça ne marche pas. Parfois, on peut se trouver avec un petit troupeau, et Paul est là dans ce petit troupeau, bigarré, et il leur dit, votre vie, votre histoire, vos fragilités sont une illustration de la folie qui est au cœur de la prédication chrétienne. Ainsi, dans le premier chapitre de l'Épître aux Corinthiens, au verset 26 et suivant, il leur dit, de manière très réaliste, leur met en face, leur envoie le miroir de ce qu'ils sont en eux-mêmes. Considérez, frères, qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Il n'y a pas parmi vous ni beaucoup de sages aux yeux des hommes, ni beaucoup de gens de bonne famille. Mais ce qui est folie dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre les sages. Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est, afin qu'aucune créature ne puisse s'enorgueillir devant Dieu. Donc, Paul, parce que sa communauté rassemble des hommes et des femmes vils, faibles, méprisables, mais choisis, élus et aimés de Dieu, la communauté de Corinthe va manifester donc aux yeux du monde la grâce de Dieu de manière encore plus éclatante, qui appelle et sauve tout être humain sans condition et sans tenir compte de ses identités mondaines, comme les aristoïs dont j'ai parlé. Le livre de la croix est donc un accomplissement de la révélation biblique. C'est une conséquence. Mais elle a aussi des conséquences ecclésiologiques, c'est-à-dire elle a des conséquences sur la manière de vivre et d'être en Église, d'exister au sein de nos communautés chrétiennes. Car ce qui vaut pour la mort du Christ sur la croix, avec ce renversement total de perspective, cela induit, par rapport aux représentations que l'on se fait de Dieu, cela vaut aussi pour les communautés chrétiennes qui incarnent la manière dont Dieu élit ce qui est faible et détruit ce qui est fort en contredisant les critères et les attentes des hommes. Et on pourrait souligner la tension ou pas, et la fécondité ou pas, au sein de nos communautés aux plus pauvres, aux plus petits. Voilà. Comment nous intégrons, comment nous accueillons les plus petits, quels qu'ils soient. Ce n'est pas simplement la question de la pauvreté, c'est aussi cette question, mais il n'y a pas que ça. Mais c'est aussi à l'intérieur de chaque communauté, comprise comme corps du Christ, que cette parole, cette réalité de la croix, va fonder des exigences de fraternité, de solidarité, de communion et d'attention à ses membres les plus faibles de la communauté, pour lesquels, dit Paul dans la première Corinthiens chapitre 8, pour lesquels le Christ est mort. La manière dont Paul, dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2, verset 2 et suivant, va relier l'exhortation à l'humilité et à l'unité du Christ est une illustration de cet abaissement et de cette humilité. Ainsi, il écrit. Ayez un même amour, un même cœur. Recherchez l'unité. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine n'a pas considéré comme une proie d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il était reconnu comme un homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue proclame que le Seigneur, c'est Jésus-Christ à la gloire du Père. Ainsi, Paul invite chaque baptisé à se comporter au sein de sa communauté chrétienne dans la fidélité au Christ Jésus qui s'est abaissé et s'est fait obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Il va ainsi poser le critère ultime et décisif pour une vie communautaire réellement chrétienne. Quel est le sceau, quelle est la marque, quelle est l'identité. On n'est plus dans l'identitaire, mais là, on a des critères pour dire est-ce que cette communauté est réellement chrétienne. Voilà ce qu'il vient de nous dire dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 2, est vraiment, je le dis, une pierre de touche, un marqueur de ce qui est une communauté réellement chrétienne. À cet effet, il rappelle que la communauté requise des baptisés ne peut être que le reflet de la communion trinitaire. Et ce n'est pas pour rien qu'à chaque acte liturgique, nous commençons par le signe de la croix. Nous nous rappelons, et au long de la messe, à chaque oraison qui se termine par la référence à la communion trinitaire pour nous rappeler d'où nous venons et vers quel chemin nous allons. Il n'y a donc pas d'autre exigence pour le baptiser que de revêtir les sentiments du Christ qui, en s'abaissant et en s'humiliant, a tué le mur de la haine, comme le dira l'Épître aux Éphésiens au chapitre 2, verset 14. Et réconcilier l'humanité avec Dieu et avec elle-même en ayant établi la paix par le sang de la croix. Il fait référence ici à l'Épître aux Colossiens, le premier chapitre, verset 20. La parole de la croix, ou le livre de la croix, fonde ainsi un universalisme, c'est-à-dire qu'il est valable pour toutes les communautés, qu'on va retrouver dans la manière dont Paul va construire des communautés en disant, dans l'Épître aux Galates, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni la femme. Un autre aspect, c'est Paul ne veut pas que la croix, qu'elle ne soit pas réduite à néant, la croix du Christ. Et c'est le troisième aspect de cette réflexion. C'est-à-dire, la croix va incarner le monde de nouveau, la vie chrétienne qui est née de la mort et de la résurrection du Christ, et ce qu'il va dire toujours dans cette première épître aux Corinthiens au chapitre 2, en disant, là il parle de lui-même et de la manière dont il a prêché. Moi-même, quand je suis venu chez vous, frère, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, car j'ai décidé de ne rien savoir parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Rappelez-vous, quand Paul va à l'Areopage et qu'il essaye de rentrer un peu dans les canons philosophiques de ces braves Grecs. Alors, il commence par ce qui nous est décrit dans les Actes des Apôtres, il commence par une captatio benevolentia en disant « Mais vous êtes des hommes très croyants, vous avez des monuments fabuleux, etc. etc. » Et ensuite, il enfonce en parlant de la résurrection du Christ. Et dès qu'il parle du mystère crucial, c'est le cas de le dire, ils lui disent ils sont quand même polis. Ils ne le brûlent pas, ils ne le massacrent pas, ils lui disent « On t'entendra une autre fois. » Voilà. Donc, Paul, il a fait cette expérience et il reste toujours dans cet axe qui ne quittera jamais, en disant « Aussi ai-je été devant vous, toujours dans ce même chapitre, 1 Corinthiens 2, et j'ai été devant vous faible, craintif et tout tremblant. Ma parole et ma prédication n'avaient rien des discours persuasifs de la sagesse. Hein, Athènes est bien derrière. Mais elles étaient une démonstration faite par la puissance de l'Esprit, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, il y a une conversion, une double conversion, c'est-à-dire conversion de sa personne au Christ et conversion aussi des moyens de prédication, l'axe de sa prédication. Avec donc les conséquences par rapport à ses représentations. Il dira aussi, 1 Corinthiens 1, 17, « Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais annoncé l'Évangile, et cela sans recourir à la sagesse du discours, pour que ne soit pas réduite à néant la croix du Christ. » C'est la raison pour laquelle, face à d'autres prédicateurs, et je pense en particulier aux Galates, il va défendre farouchement l'Évangile qu'il a reçu. Dans Galates 1, versets 6 et 9, vous vous souvenez, en fait, les Galates, c'est très intéressant de réfléchir aux Galates. Vous savez que les gens de Montpellier, je ne sais pas s'il y a ici des gens de Montpellier, mais apparemment, les Galates et les gens de cette région de Montpellier, dans l'Antiquité, seraient peut-être le même peuple. Voilà. C'était des gens très vaillants, les Galates surtout de Galatie, ce qui est la Turquie aujourd'hui, c'est-à-dire la région d'Ankara. Et donc, c'était des gens très vaillants, très farouches et qui avaient un sens de l'honneur très important. Et vous vous souvenez, lorsque les Actes des Apôtres nous racontent, Paul, il est chamboulé dans son chemin. L'Esprit lui fait le détourner du chemin qu'il avait décidé, et c'est comme ça qu'il va rencontrer ces hommes qui luttaient, qui étaient habitués à la lutte en plein vent. Et donc, il va les rencontrer, il va leur annoncer l'Évangile. Comme ces hommes sont d'une grande franchise et d'une grande liberté, Paul va les prendre, je dirais, là où ils en sont et avec les valeurs culturelles qu'ils ont. Lorsqu'il leur dit « Oh, Galate stupide !» parce qu'ils savent d'où ils viennent et ils connaissent Paul, ils l'ont vu. Cette rencontre a été très, très, très forte, très puissante. Et donc, quand d'autres prédicateurs passent sur son chemin et qu'ils essayent de détourner ces Galates du chemin, c'est-à-dire de l'évangile, de la croix que Paul leur a annoncé, Paul, évidemment, est furieux et il va défendre cet évangile qu'il a reçu contre ceux qui étaient en train de trahir l'œuvre salvifique du Christ en prenant en particulier le retour à la loi de Moïse et annonce des évangiles, entre guillemets, qui ne sont pas conformes à cet évangile. C'est aussi pour cela, et c'est par là que je vais terminer, c'est aussi pour cela qu'à la lumière de la croix, Paul va interpréter les échecs et les épreuves qu'il va rencontrer. Et je pense que nous avons beaucoup à nous nourrir de ces méditations pauliniennes pour la vie de l'Église aujourd'hui. Car je pense que dans un sens comme dans l'autre, nous avons du mal à gérer l'échec dans l'Église. L'échec parfois dans les accompagnements, l'échec de certaines initiatives pastorales aussi, et l'échec dans nos propres vies au plan personnel. Ils sont, pour Paul, un des lieux privilégiés de la configuration lorsque cette droiture du cœur, ce désir de suivre Dieu, de le chercher, lorsque, évidemment, ce chemin, nous restons sur ce chemin. Tout échec, je dirais, n'a pas forcément un sens évangélique. Mais ils sont donc un des lieux de la configuration de l'apôtre au Christ et de la participation à son œuvre salvifique. Ainsi, dans la deuxième aux Corinthiens, il dit « Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus. » Vous avez une traduction littéraire et aussi théologique, spirituelle, chez Pascal, Blaise Pascal, lorsqu'il parle que le Christ est en agonie jusqu'à la fin du monde. Et l'auteur de la lettre aux Colossiens, Colossiens 1, 24, qui va écrire « Je trouve maintenant ma joie dans les souffrances que j'endure pour vous, et je complète ce qui manque aux tribulations du Christ en ma chair pour son corps qui est l'Église. » Et on pourrait faire ici un développement sur, j'allais dire, la matrice maternelle de Paul, qui va utiliser le langage de la femme qui enfante pour parler de la réalité spirituelle. C'est quoi engendrer des enfants. Et ici, je fais un petit aparté dominicano-presbytéral. Parce que ça me fait penser, en parlant de ça, à Louis de Grenade, mon cher Louis de Grenade, dominicain du XVIe siècle, et un docteur de l'Église que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, mais qui a une grande figure récente, Saint Jean d'Avila. Saint Jean d'Avila, qui n'a rien à voir avec Saint Jean de la Croix. C'est la même époque, le XVIe siècle, et donc c'est un prêtre diocésain. Il est resté prêtre diocésain. Les jésuites ont essayé à tout prix de le capter. Il a été enterré dans une église jésuite, mais il est resté toujours. Et Louis de Grenade, à partir de 1550, il est né en 1504, il va traverser la frontière et vivre au Portugal jusqu'à la fin de ses jours. Avant d'y aller, il a un certain succès dans sa prédication et il écrit une longue lettre à Saint Jean d'Avila, une très belle lettre, et Jean d'Avila va lui répondre. Louis de Grenade, en quelque sorte, il a eu une formation théologique exceptionnelle. Il a été né à Grenade, il va vivre à Valladolid, c'est-à-dire qu'il est choisi, il appartient au gratin dominicain, de ceux qui ont fait des études très poussées. Donc il est un peu content de lui. Il a donc un certain succès. Alors, Jean d'Avila, quand il reçoit sa lettre, il sourit et lui écrit. Il lui dit même, votre lettre m'a fait sourire. Pourquoi? Parce que Louis de Grenade n'y est pas. Il pense que sa prédication est déjà fructueuse et féconde, comme il nous arrive à beaucoup penser qu'on a fait une belle prédication. Alors Jean d'Avila lui explique, c'est quoi engendrer? En quoi consiste engendrer à la vie chrétienne, à la vie spirituelle? Il lui dit, et il utilise comme Paul une image de la femme qui enfante. Il lui dit que les enfants de Dieu, ils sont plutôt les enfants des larmes que les enfants de la seule parole. Et ensuite, il décline point par point les travaux, les pleurs, les souffrances des parents. Lorsqu'ils engendrent à la vie, d'abord, la femme qui engendre, mais ensuite, tous les travaux d'accompagnement des parents tout au long de leur vie, leurs enfants. Lorsque à la fois ils lâchent le lest et qu'en même temps, il faut toujours rester en vigilance jusqu'à la fin. Alors, il utilise cette image de l'accompagnement des parents pour parler de l'engendrement à la vie spirituelle. Et je pense que Louis de Vanade va en faire son véritablement son miel. Jean d'Avila est justement un paulinien convaincu, donc il a beaucoup travaillé la pensée de Paul, parce que Paul va justement parler, comme ici dans l'Épître aux Colossiens, les souffrances que j'endure pour vous. C'est-à-dire le travail des parents, du père et de la mère. Alors il dit, également dans la deuxième aux Corinthiens, d'autant plus que nos détresses d'un moment sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Notre objectif n'est pas ce qui se voit, mais ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Ainsi, l'apôtre, et là on ne parle pas simplement des grands apôtres, tout apôtre, c'est-à-dire tout baptisé, participe à cette communion souffrance du Christ sur la croix, à travers les épreuves, les faiblesses, les échecs, car ce sont le lieu où on peut expérimenter la présence du ressuscité et la puissance de l'amour de Dieu qui console et renforce. Et nous pouvons penser à l'épître, au passage de la lettre aux Philippiens, où Paul lit de manière indissociable la puissance de la résurrection et la communion aux souffrances du Christ. Ainsi, Philippiens 3, verset 10. Car il s'agit de le connaître, lui, avec la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, de devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. On peut se demander pourquoi Paul a une telle insistance. Parce que pour le disciple de Jésus, souffrance et persécution sont le moyen par lequel la puissance de Dieu se révèle en plénitude, comme dans la parole du salut, lorsque la fragilité et la vulnérabilité deviennent le lieu même de la puissance divine. Ainsi, le disciple, uni au Christ, ne souffre pas seul, et d'où l'importance de nos communautés. Il souffre avec le Christ et avec les autres croyants. Même étant en Christ, il est membre du corps du Christ et c'est en quelque sorte le corps du Christ qui souffre en lui et par lui. Donc il n'y a pas de dolorisme ou de masochisme dans le désir que Paul a de participer aux souffrances du Christ. Ne gardons pas cette idée. Puisque c'est dans la perspective de communion avec le ressuscité, qui est le vivant, que les souffrances sont envisagées et éprouvées, pour que la puissance de Dieu puisse vraiment et paradoxalement se manifester. Pour Paul, tel est le grand mystère de l'annonce de l'Évangile. C'est dans la faiblesse et la pauvreté des situations que la puissance de Dieu peut donner toute sa mesure. C'est aussi le mystère pour vous, pour votre communauté ici à Montigny, le mystère de toute vie baptismale et de tout apostolat, où au plus profond de sa misère, de sa faiblesse, de ses échecs et de ses souffrances, s'impose la nécessité d'accueillir l'œuvre de la toute-puissance de Dieu. Ainsi, cette demande à laquelle j'ai fait référence au cours de ces trois jours, dans la deuxième aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 8 et suivant, où Paul supplie. « À ce sujet, par trois fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. » Cette fragilité qu'il avait. « Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse, afin que repose sur moi la puissance du Christ. Donc, je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. » J'en conclus en disant que la croix, dans l'œuvre de Paul et de toutes ces grandes figures de la mystique, dominicaine, ignatienne, franciscaine et autres, est toujours en référence avec le ressuscité ou le Seigneur de gloire. Comprise comme une parole, comme le livre de la croix, comme chez Catherine de Sienne, qui parle aussi avec insistance, cette parole porte avec elle un langage qui n'est pas de négativité, puisque ce langage s'inscrit toujours dans un contexte d'amour, de réconciliation, de paix, de justice et de sanctification et de délivrance, comme il va le dire et le référer dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, Colossiens 1, sur la paix, Éphésiens 2, ou sanctification et délivrance dans la première Épître, au chapitre 1, verset 30. La croix a ainsi dans l'œuvre de Paul une fonction de révélation qui fait qu'à l'amour de Dieu manifesté par et sur la croix, le baptisé, nous sommes invités à répondre dans un même élan d'amour et de don de nous-mêmes. Mais parce que la foi au Christ crucifié et ressuscité comporte et va comporter toujours un aspect de scandale et de folie, on peut comprendre que la révélation chrétienne et notre existence comme chrétien soit pour Paul toujours marquée du double sceau de la contradiction et de l'espérance qui leur est intimement liée.
Je vous propose que nous prenions le numéro 12 sur nos feuilles. Numéro 12, si Frédéric puisse nous le faire chanter.